Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Si vous aimez le rêve, l'évasion, les lieux peuplés de mystères et de songes, si vous aimez la poésie, cette musique que vous portez en vous, si vous aimez le récit du destin d'un être charismatique sous l'emprise de la, peut-être, de la culpabilité, de la honte, si vous aimez les mots de notre belle langue française, un style qui illustre bien ici la définition de Maurice Barrès, ce mouvement de l'âme, ses frémissements, ses hardiesses, son élan rendu sensible, ce roman est pour vous. Il s'intitule « Ce qu'a tué le vent d'Ouest », il est édité chez Gallimard dans la collection L'Arpenteur et j'ai le grand plaisir d'accueillir son auteur Vincent Conchon. Vincent Conchon, bonjour.
Bonjour Monique.
Voilà, merci d'être venu jusqu'à nous depuis Paris. C'est un premier roman, un roman hors norme, inclassable, déroutant, fascinant, je dirais, un coup de maître. Pourtant, votre parcours professionnel ne vous dirigeait pas vers cela en principe, si ?
Non, je crois que mon parcours professionnel ne m'a pas destiné à écrire ce livre. C'est vraiment une activité parallèle. Mais c'est une activité qui m'occupe depuis toujours. Voilà, quand on me pose la question, je dis que c'est vrai que j'écris et j'écris dans le registre de la fiction depuis à peu près que je sais écrire. Voilà.
D'accord. Et le confinement a dû encore vous booster, non, peut-être ?
Alors, c'est une remarque qu'on me fait souvent, mais finalement,
pas
non,
plus que
pas
d'habitude.
Dans mon cas, puisque j'ai terminé vraiment la rédaction de Ce qu'a tué le vent d'Ouest au tout début du confinement. Mais donc, c'était plutôt un achèvement de l'écriture pour moi, en tout cas de ce livre.
D'accord. Alors, oui, justement, alors quel est le thème ? Après, nous allons... Le thème général, vous pouvez nous le dire ?
Oui, je crois que, d'ailleurs, vous l'avez très, très bien souligné dans cette introduction. Il y a évidemment une histoire de culpabilité qui est fondamentale. Mais ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est que il n'y a pas forcément de raison parfaitement identifiée à cette culpabilité.
Et, du moins, pas au début.
Du moins pas au début. Oui, parce que, voilà, il y a tout de même un récit, une histoire et une explication, une explication donnée. Donc on comprend qu'il y a tout de même un épisode dramatique qui est à l'origine de cela.
Et c'est un narrateur. C'est intéressant aussi le fait que le narrateur... Je vous ai interrompu, excusez-moi.
Je vous en prie.
Oui, un narrateur qui est appelé, un homme qui est appelé sans qu'on lui en donne la raison, par un ami, dans un lieu où ils ont vécu ensemble une jeunesse particulièrement passionnante, avec une bande d'amis, une bande... enfin, on va d'ailleurs préciser. Et surtout, à la tête de cette bande, je dirais qu'il y a un individu assez charismatique, justement, un conteur. Mais on en parlera, parce que alors moi, j'ai plein de références dans la tête par rapport à cet homme. Évidemment, quand on aime lire comme vous, j'imagine, on se dit, mais tiens, il a un peu de celui-ci ou un peu de celui-là, vous voyez. Et ça aussi, ça m'a intéressée. Alors, écoutez, moi, je me dis, j'ai découvert déjà trois passions dans votre ouvrage. Évidemment, la Bretagne et mea culpa, à part un peu les Côtes d'Armor, je ne connais rien de la Bretagne. Je suis du sud, du sud-ouest, du sud-est et même des pays du Moyen-Orient, vous voyez.
Très bien.
Mais voilà, mais ça reste à faire. Hein. La Bretagne, le bateau, la navigation, et là je vous rejoins.
Merveilleux.
Je vous rejoins. Et puis les mots. Alors là, ça aussi, ça c'est assez extraordinaire. Et j'invite les auditeurs à lire pour le plaisir des mots, déjà. Alors, la Bretagne, vous êtes un breton ?
Alors, je ne suis pas breton d'origine, c'est-à-dire que je ne suis pas né en Bretagne.
Mais bretonnant.
Mais voilà, je vais en Bretagne depuis que je suis né. Les hasards familiaux ont fait que mon grand-père, cherchant un endroit où réunir sa famille, il s'est rapproché de sa sœur, qui elle-même habitait une partie de l'année dans le Finistère Nord, à Plouganou, à côté de Morlaix. Et que mes parents, mes oncles, mes tantes, et puis ensuite moi-même, mes frères et sœurs, on a respectivement adopté le lieu qu'on a vraiment passionnément aimé. Ça a été mon cas, et ça a été mon cas très très jeune. Et c'est un endroit qui a exercé une fascination
que l'on ressent.
Voilà, qui se retrouve, j'espère, dans le livre. Et je crois d'ailleurs que, vous voyez, j'ai presque 50 ans cette année, il m'a fallu toutes ces années de décantation, je crois, pour arriver à faire quelque chose de tout ce que cette Bretagne avait déposé en moi.
Oui.
Parce que ce qui m'intéressait dans ce livre, ce n'était pas de faire un guide touristique, vous l'imaginez, donc de ne pas reproduire une Bretagne qui serait une Bretagne exacte du point de vue géographique, mais au contraire, quelque chose qui reste...
porteur de légendes,
oui,
de
ce
cela,
pays rêvé, en fait.
Hein, oui, voilà.
Il y a une phrase de Roland Barthes que je cite souvent quand je parle de mon texte. Son livre « L'Empire des signes » m'avait absolument passionné au sujet du Japon. Et il commence son livre, ce pays que j'appelle Japon. C'est-à-dire que, voilà, il va nous parler d'un Japon qui est le Japon qu'il a ressenti,
à son idée.
Perçu.
Voilà.
Je crois que dans ce qu'a tué le vent ouest, voilà, je pourrais dire aussi ce pays que j'appelle Bretagne et que
d'accord.
je voulais, j'ai essayé de restituer. En tout cas.
Alors, évidemment, voilà. Il y a la mer, l'océan, les bateaux, la navigation. Visiblement, là aussi, bon, on sent déjà dans le vocabulaire, parce qu'il y a un vocabulaire
oui.
très lié à la navigation.
Oui. Oui.
Bon, vous êtes un amateur.
Oui, absolument.
Quand on aime la Bretagne, et surtout le bord de les côtes bretonnes, évidemment. Et puis, les mots. Alors, je dirais que... Il y a le pouvoir des mots et des images dans votre ouvrage. Certains mots peu usités, très littéraires, et merci de m'avoir obligé à les regarder dans le dictionnaire, dictionnaire particulier quand même. Mais c'est vrai que le plaisir d'apprendre des nouveaux mots et des mots qui parlent. Il y a des mots empruntés à la botanique. Alors j'ai ri parce que vous avez un vocabulaire extrêmement étendu et dans tous les genres. Par exemple, bon, la dulce, je ne connaissais pas, mais là peut-être que les botanistes vont dire comment. La déficience, on en parlera. Le parler angevin. Le parler angevin, infondu, c'est un parler angevin. Vous le saviez, ça ?
Alors, pour le coup, non, puisque il m'arrive d'employer des néologismes, vous l'avez noté dans le livre, vous voyez, et j'ignorais que ça pouvait faire référence au parler angevin.
Voilà. Alors, après, évidemment, vocabulaire marin. Bon, une prame, je ne savais pas ce que c'était. Alors, pardon à tous les marins, tous les bretons. Les récifs exondés, évidemment, on comprend, mais c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup. Pousseur de havenots. Alors, c'est un filet.
Oui,
bon, voilà, je
absolument.
Découvre.
Voilà.
Voilà. Alors,
C'est vraiment du vocabulaire en plus employé en Bretagne, pour le coup. La prame, le havenot, sont des mots que j'ai entendus depuis vraiment la plus petite enfance.
D'accord.
Qui me sont complètement familiers. Ce qui n'est pas le cas de tous les mots de ce livre, parce que...
Il y a des mots qui sont... le barde écossais, océanique.
Oui, mais ça me vient des poèmes d'Ossian, en fait. Voilà.
Oui.
Et vous voyez, là, on touche à un des cœurs du livre. C'est-à-dire que
c'est un petit peu tout ce que vous, qui est en vous,
oui.
qui ce que l'on retrouve
oui.
là.
Et enfin. Quand on dit océanique, vous voyez, je joue évidemment sur les poèmes d'Ossian, très bien. Mais quand on dit océanique, c'est très très proche d'océanique. Vous voyez.
Tout à fait.
C'est
tout
ce
à
qui
fait.
M'a intéressé dans ce livre.
Oui,
et c'est
oui.
pour ça que vous parliez de dictionnaire. Et lorsque j'ai des conversations au sujet de ce livre, et je vois des réactions très différentes de gens qui ont été coincés à cause justement de la sémantique. C'est, ah oui, il faut que j'ouvre un dictionnaire, etc. C'est pas vraiment dans cet esprit que je l'ai fait. C'est-à-dire que le mot rare, souvent, m'a intéressé, non pas par son sens et par sa précision, telle qu'on peut la trouver dans le dictionnaire, mais souvent par sa valeur, sa valeur sonore.
Mmh.
Voilà.
Mmh.
Et il me semble qu'on peut retrouver finalement l'esprit du mot en le lisant par le timbre.
Et l'intérêt d'accroître son vocabulaire à tout âge. C'est ça qui est formidable. Alors, ça a été un plaisir, pour moi en tout cas, de découvrir, cette écriture, ce vocabulaire. Et des phrases longues. Vous voyez, d'habitude, je ne parle que de la forme qu'à la fin du style. Mais là, vous voyez, parce que c'est ce qui surprend de prime abord, des choses qu'on a envie de lire à haute voix, figurez-vous. Vraiment. Alors, pour le plaisir, des descriptions... Alors, particulièrement évocatrice. Alors, moi, bon, peut-être que, après tout, votre livre est devenu celui du lecteur, le mien. Je pensais à des tableaux de Caravage à certains moments. Bon, il y a la musicalité des mots. Et alors, je dirais, les descriptions sont assez extraordinaires. Alors, j'ai noté parce qu'il y a plusieurs endroits. C'est vrai que vous êtes un peintre littéraire, je dirais. Je sais pas, peut-être que l'expression...
Non, mais enfin, tout ce que vous me dites me touche beaucoup.
Voilà, l'âme à cet endroit, peut-être que vous pourriez le lire, non ?
Avec plaisir.
Alors, c'est un court passage du bas de la page 22.
L'âme à cet endroit demeurait saisie.
Voilà.
Alors, voilà. Donc, on est dans le premier chapitre d'exposition. Voilà. L'âme à cet endroit demeurait saisie par la sournoiserie des roches dont l'affleurement attestait les dangers tapis d'un port soumis à l'éternel mouvement des marées qu'ainsi découvert, l'estran trahissait jusqu'en ses moindres plissements. Assis sur les partitions de cet amphithéâtre débondé, l'on percevait avec une exceptionnelle acuité le cri gouailleur des volatiles planant sur la béance navrée par l'océan. L'on était vraiment là, sur les humides bords des royaumes du vent. Voilà.
Voilà, pour donner à nos auditeurs une idée, il y a le monde, et encore, il y a d'autres passages, j'espère que nous aurons le temps d'en lire certains.
Avec plaisir.
Il y a également, alors peut-être que je suis en train là de brûler des étapes, mais j'ai vu aussi une interrogation sur le pouvoir de la littérature.
Absolument. Absolument. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a beaucoup touché dans les conversations que j'ai eues avec Ludovic Escande, notamment mon éditeur à l'Arpenteur, lorsqu'on ne se connaissait pas encore, mais on a commencé à parler du texte au téléphone. Et tout de suite, il m'a dit ça. Il dit, ah, il y a une espèce de mise en abîme, une réflexion sur la littérature. Voilà. Et elle est présente. Je crois qu'elle est présente même dans la construction du livre, dans la forme et dans le style que vous avez souligné. Il y avait quand même quelque chose d'expérimental, même si je n'en avais pas conscience. Je
ne
suis pas en train de vous dire que je voulais faire quelque chose d'expérimental, mais manifestement, oui, c'est aussi une réflexion sur la littérature.
Voilà. C'est vrai que qui n'a pas été marqué, qui n'a pas été influencé par un ouvrage, par un auteur. Et là, il y a votre propre... C'est très curieux parce qu'il y a une mise en abîme. Il y a votre propre pouvoir, de par l'écriture même qui happe. Je dois vous dire que je n'avais jamais lu un roman de cette sorte. Et vraiment, c'est quand même innovant. Et également... Le pouvoir, il y a un homme. Alors lui, je ne sais pas si je dirais que c'est le personnage principal, parce que il y a un dénommé. Alors je voudrais pas écorcher, parce que vous dites bien à un moment donné, il s'agit de Warrock, oui,
voilà.
qui écrit.
Oui.
Et oui.
Absolument.
Et qui a. Alors, on peut en dire juste un mot, parce qu'après on parlera des autres personnages, bien entendu. Warrock, quel est son pouvoir?
Je crois que justement, son pouvoir est un pouvoir d'énonciation. Vous voyez, je le fais inconsciemment, parce que dans dénonciation, on peut également entendre dénonciation, et c'est bien ce qui se passe dans le livre, puisque son pouvoir d'énonciation d'apostrophe s'exerce à l'encontre de Storvan, qui est donc l'animateur du petit groupe que vous avez souligné lors de votre introduction. Donc son pouvoir est là, justement, dans la maîtrise des mots, dans la capacité à formuler quelque chose qui... a été traumatique, pour lui également, à une époque de leur vie commune, pouvoir d'énonciation dont ne dispose pas ou plus Storvan, ou dont il s'est privé à cause de cet événement traumatique en question. Voilà.
Alors Storvan, c'est le personnage principal dont on va parler. Oui, alors je passe encore, il y a également la topographie, parce que c'est très intéressant de voir en harmonie les situations, les sentiments, et même la topographie, enfin la végétation. Tout se recoupe. Il y a des descriptions de lieux tourmentés, escarpés, périlleux. Cette végétation foisonnante. On imagine très bien. Et à la fois, il peut y avoir l'océan qui déferle, mais il peut y avoir le silence, l'isolement, la dramatisation. C'est pour ça que, je pensais aussi à des tableaux que on peut avoir en tête, des cieux, des ciels assombris, des échos étranges. Voilà, on pense à des peintures romantiques du 19e siècle. Je pensais à un romantique allemand, Caspar Friedrich, David Friedrich, pardon.
Caspar David Friedrich.
Oui, voilà. J'ai inversé le sens. Et vraiment, quand on voit ces tableaux, c'est ceux que vous décrivez un peu.
Oui. Alors, c'est vraiment, c'est amusant parce que... la peinture elle-même n'est pas quelque chose qui a été moteur dans le travail du texte. C'est-à-dire que je peux être amateur de certaines œuvres, voilà, mais ce n'est pas quelque chose qui nourrit directement mon écriture.
En l'occurrence, c'est vous qui peignez.
Oui, alors je crois que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'influence se coupe là.
Oui.
En revanche, après la rédaction du texte, j'ai revu des tableaux de Caspar David Friedrich. Il se trouve que mon fils, en plus, en étudiait un, etc.
Ah bon,
et les revoyant, je me suis dit, oui, en effet, on peut voir certaines correspondances.
Oui, voilà. Ouais. Alors, bon, évidemment, il y a le temps, le climat. On sait pourtant que la Bretagne a 200 jours par an de beau temps.
Oui.
Vous voyez, je ne fais pas, de Toulouse.
Oui.
L'habitation également est très étrange. C'est un manoir à la fois renaissance et moyenâgeux,
oui.
Des remparts bretons, des labyrinthes. Et puis les personnages. Alors, le narrateur Bonin Noir, celui-là est assez en retrait. C'est très intéressant de voir aussi son évolution. De prime abord, il est curieux, ému probablement,
oui.
Et on le comprend. Après, moi je le sens un petit peu hostile, lassé aussi.
Oui, absolument. Je pense, comme peuvent lasser, hélas, les gens que l'on côtoie et que l'on aime, dont on pense qu'ils auraient une capacité à se sortir de leurs difficultés, en tout cas à trouver une voie d'amélioration aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie, et qui, manifestement, par un signe du sort, un problème psychique, une destinée fatale, ne s'en sortent pas. Voilà. Et au bout d'un moment, la chose est très difficile à supporter, en fait, parce qu'on sent bien que quelque chose... Et dans le livre, je pense que c'est central, vous m'interrogiez tout à l'heure sur Warhol, je parlais du pouvoir d'énonciation. Storvan est mutique, très largement, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il refuse de dire quelque chose qui serait...
Ou
ne peut pas le dire, voilà. Des phrases qui seraient libératrices et qui le mettraient dans une direction susceptible d'améliorer la situation.
En tout cas, voilà. Bauman Noir a le sentiment, à certains moments, d'être venu comme un complément d'objet.
Oui.
Ça m'a beaucoup plu.
Voilà.
Alors, Vincent Conchon, nous faisons une première pause musicale.
Alors,
à votre demande, nous allons écouter... je pense que c'est un extrait de l'Entretien des Muses de Rameau.
Voilà, c'est ça. C'est une pièce pour clavecin de Rameau.
parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Vincent Canchon venu nous parler de son ouvrage, de son roman « Ce qu'as-tu, le vent d'Ouest ?» Un roman, je l'ai dit en début d'émission, hors normes. Honnêtement, je pense que j'ai maintenant pas mal d'années derrière moi de lecture et d'interview. Et c'est vrai que c'est un roman qui se lit avec surprise, telle... En fait, pour moi, c'est de la poésie.
Je ne refuse pas le mot. Hein.
Oui, mais c'est vrai qu'en fait, dans chaque page, vous voyez des mots, vous voyez des phrases, et ce que j'ai dit également en début d'émission, vous avez envie de le dire, de le lire, mais de le dire aussi, de le parler. Et ça, c'est assez étonnant. Alors, on revient quand même, il y a une histoire, même si elle est distillée lentement.
Oui, hein. Absolument.
Et c'est vrai que parfois, il faut relire pour bien comprendre. Bon, je préviens les auditeurs, mais les amateurs de lecture seront prêts à faire cela. Le personnage central, c'est donc Storvan. Qu'est-il, cet homme ?
Bien, Storvan, vous l'avez évoqué au début de cette émission, c'est avant tout un de ces personnages charismatiques qui nous arrive de rencontrer et qui nous laisse un souvenir extrêmement fort, notamment dans la période de l'adolescence. Il y a des personnages comme ça qu'on retrouve dans la littérature aussi. Je suis en train de relire Un beau ténébreux de Julien Gracq et je m'aperçois que le personnage d'Alan comme ça...
Je n'ai pas pensé à lui, mais voilà. J'ai pensé moi à Heathcliff, oui, au Grand Moulne, oui, voilà. À Lord Jim évidemment. Et à Geoffroy Fermé aussi, sous le volcan.
Oui, 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 tout à fait.
Il y a de ça. Hein,
oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, à chaque fois, ce sont des noms que je convoque après coup. Je n'ai pas pensé à des types préalablement et au contraire...
Mais c'est un caractère, vous aviez
voilà,
en tête.
Voilà, un comportement. Fait de souvenirs, d'impressions, de voilà. Ça ne correspond pas à quelqu'un en particulier que j'aurais rencontré, mais des situations, voilà. Et ces personnages comme ça, solaires, qui agrègent les gens autour d'eux sans qu'on sache réellement pourquoi, c'est quelque chose qui reste fascinant. Voilà, simplement, ce temps de l'adolescence, ce temps aventureux où les choses se passent de justification, c'est un temps assez limité. Hélas, parfois, on pourrait se dire ça.
Oui. Voilà. Oui, et ça, c'est très intéressant, je trouve, cette étude du vieillissement, entre guillemets, mais oui, quand même, parce qu'il avait une aura,
oui.
Il avait un rôle.
Absolument.
Et petit à petit, sa petite troupe, oui. Je dirais cette bande de jeunes,
oui.
Qu'il avait quand même un peu sous sa férule.
Oui. Oui, absolument. Oui. Oui, parce que je parle à un moment dans le livre de comportement gentiment tyrannique.
Oui,
voilà.
Oui, autoritaire. Oui,
absolument.
Oui. Mais finalement, tous ces jeunes, à un moment donné, ils ont envie de prendre leur envol, de faire autre chose, ils s'en vont.
Forcément.
Et le déclin, une forme de déclin arrive. Ça, c'est très intéressant, finalement.
Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Certains continuent leur ascension et finalement réalisent les promesses qu'on les voyait porter dès le plus jeune âge. Et puis d'autres, au contraire, s'étiolent. Voilà. Et leur pouvoir, leur royaume, pour parler comme je le faisais dans le livre, n'a qu'un temps et qu'un espace assez limité. Et ceux qui n'arrivent pas finalement à se sortir d'une situation initiale restent enfermés dans un passé qui ne passe pas, hein, selon l'expression consacrée, et ne parviennent pas finalement à construire autre chose.
Oui, alors c'est vrai qu'on peut se poser des tas de questions, parce que finalement c'est cette situation-là qui interroge, parce qu'on se dit, est-ce que finalement il était vraiment ce qu'il croyait être ?
Oui, alors c'est la question, et je crois que c'est aussi sa malédiction, c'est-à-dire qu'il s'est pris pour Arthur Storvan, voilà, et quand on se prend pour, hélas, on s'enferme dans un rôle, qui est complètement artificielle et qui ne permet plus de sortir dans de cette boucle du passé, justement. Ma question, c'était, enfin, la question qui m'intéressait en débutant le livre, c'était juste la capacité qu'on a à sublimer ce passé. C'est-à-dire qu'on a vécu des événements qui sont teintés d'une lumière extraordinaire, qui sont merveilleux, qui sont des trésors, voilà, mais qui correspondent à une époque donnée, à un moment donné. Ça peut être un grand amour, ça peut être une découverte fantastique, enfin bon, il y a plein de variétés, ou au contraire, un événement traumatique. Bon, les deux peuvent être également enfermants. Le fait de se dire que finalement, on recherche en permanence ce pic émotionnel que l'on a vécu à un instant donné dans le passé, peut être quelque chose de tout à fait aliénant. Quoi. Voilà. Et c'est la capacité à sortir de cela pour aller vers quelque chose, non pas de moins bien, oui, voilà, mais et on espère de meilleur. Voilà.
Cette nostalgie que je ressens chez lui, mais même chez le narrateur, parce que il y a aussi la prise à mesure quand on revient sur des lieux où il y a eu des soirées, certainement, des rencontres, des discussions particulièrement passionnantes, c'est quand même aussi l'idée d'un vieillissement, du vieillissement.
Oui, tout à fait. Ben oui, on y est tous confrontés, voilà, c'est
oui,
ça.
Oui,
et,
oui.
Et la question à travers ce livre, c'est comment, alors même que l'on vieillit, ce qui est, voilà, tout dépend...
Tant mieux.
Mais en fait... Voilà, c'est exactement ce que vous dites. C'est comment continuer à être électrisé, intéressé, passionné, emporté par des événements de l'existence, alors même que l'on vieillisse. Bon, voilà, on vieillit, c'est un fait, voilà, mais on n'est pas forcément condamné à se souvenir d'un meilleur qui serait un meilleur ancien, un meilleur ancré dans le passé, encore une fois, je me répète.
Voilà. Et alors, oui, là, donc, chez Storvan, on a le sentiment qu'il y a presque une forme, enfin, dans un premier temps, parce que, évidemment, après, il y a des choses qui se précisent ou qui sont autres. Hein, petit à petit, vous nous faites marcher là au milieu des broussailles, de la lande, ou je ne sais pas. Mais on se dit, est-ce qu'il y a une forme, le fait de se retrouver seul, abandonné, entre guillemets? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'humiliation? C'est le souverain déchu, peut-être.
Oui. En tout cas, lui se vit en partie comme ça. Je crois que c'est net dans le livre. Tout en maintenant lui-même ses conditions de vie, puisqu'il en est largement l'auteur. C'est-à-dire que personne ne l'a enfermé contre son gré dans son manoir breton dans cette situation.
Alors, à un moment donné, quand on touchait à sa mise en scène, il se brisait net, désorienté, ne sachant comment vivre ainsi privé de ses ressorts. Il investissait tellement d'énergie affective dans l'atteinte d'une satisfaction dont l'intensité se trouvait si exclusivement dépendante du degré de contentement éprouvé par les autres, que lorsque ceci ne semblait pas totalement comblé ou émettait seulement une idée neuve sur la manière de jouir des heures démembrées qu'il consumait à ses côtés, il en ressentait une tristesse mortelle. Si l'un des siens confessait mal apprécier les charmes des chasses qu'il lui prenait d'organiser l'après-midi sur la laisse de Basse-Mer, osant traduire l'envie générale d'entrer dans un café pour se mettre à l'abri du vent, du froid, du soleil ou de la pluie, à l'abri même parfois de son enthousiasme morbide, il devenait muet, prostré, comme s'il venait de réchapper à quelque monstrueux attentat. Ah oui, il a de l'autorité cet homme.
Absolument.
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Mais oui, ce passage, c'est un phénomène intéressant, c'est que justement ce type de personnage charismatique qui offre beaucoup, qui donne beaucoup, sont aussi dépassés par le fait que il n'y a plus d'acceptation de la contradiction, si vous voulez. À partir du moment où il a le sentiment de donner en totalité ce qu'il peut à ceux qui gravitent autour de lui, si les intentions, si le désir des uns et des autres commence à se manifester dans des directions différentes, alors là, tout s'écroule.
Alors, son pouvoir, est-ce qu'il était... Alors, vous le décrivez comme un conteur dans les mots, dans l'action aussi, puisqu'il entraînait les autres, parce que moi, je me dis, mais dans le fond, c'est c'est dur ce que je vais dire, est-ce qu'il n'était pas une enveloppe vide?
Oui, je crois que je me suis posé la question aussi en écrivant.
Alors?
Mais oui, et c'est difficile de répondre.
Oui.
Alors, je crois quand même, parce que je garde une sympathie pour lui, je crois quand même que ce n'est pas tout à fait vrai. Je crois que l'événement traumatique dont on parlera peut-être, qu'il a vécu autour de cette histoire d'amour qui est absolument clé pour lui, qui est l'épisode central de sa vie, je crois que ce drame-là, ce drame intime-là, est ce qui l'a véritablement enfermé, ce qui a constitué, oui. Ce qui est à l'origine de son déclin. Et voilà. Donc, aurait-il pu être autre chose? Je le crois véritablement. Je crois que cet épisode l'a empêché de l'être. Voilà.
Oui, parce que ce déclin, pour lui, dans le fond, c'est une humiliation. Hein?
Oui. Oui. Ah voilà. Oui. Bah oui, il le vit comme ça. Oui, voilà. Il est dans la situation de celui qui a tout perdu finalement, voilà, et qui s'en rend responsable.
Oui, voilà. Alors, le narrateur qui fait partie des élus, des adeptes, est rappelé. En fait, le mystère, c'est pourquoi l'a-t-il rappelé? Alors, il faut pas, on ne va pas raconter, bon, en particulier la fin, jamais, jamais.
Voilà.
Mais là, est-ce qu'il est comme témoin ou pour un appel à l'aide?
Oui, je crois qu'il a de ça quand même. Il y a d'ailleurs un passage dans le livre qui le laisse entendre. Oui. Je crois que cette impossibilité justement de formuler cet épisode traumatique et réactivé par l'installation de Warrock à proximité de son manoir fait qu'il jette une bouteille à la mer. Il jette une bouteille à la mer, il a besoin d'une bouée de sauvetage et la bouée de sauvetage, il espère la trouver en la personne du narrateur. Mmh. Voilà. Donc, oui. Je crois vraiment que c'est un appel à l'aide.
Alors, Vincent Canchon, vous nous aviez proposé une autre pause musicale, à savoir Canopée de Debussy, parce que je pensais à un autre morceau dont nous avons parlé hors antenne.
Absolument.
Voilà, et nous l'écoutons.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Dernière partie de notre entretien avec Vincent Canchon. au sujet de son ouvrage « Ce qu'a tué le vent d'Ouest » paru aux éditions Gallimard. Vincent Conchon, nous en étions donc à ces personnages masculins, évidemment les plus importants, puisqu'il y a le narrateur et le personnage de Stervin.
Stervin.
Oui, j'ai bien prononcé, voilà. Hein, parce qu'en exergue, vous notez.
Oui, c'est important.
Alors,
pour moi.
Voilà. On ne sait pas, pour ce qui est de cet homme, Stervin, qui paraît très compliqué, effectivement, il parle peu. C'est quand même le narrateur qui raconte, surtout. Mais on entend des sanglots, parfois. On voit qu'il y a quelque chose de caché chez cet homme qui ne s'exprime pas. On s'interroge. Effectivement, à un moment donné, on sent qu'il y a besoin d'aide. Et d'ailleurs, vous dites une main pour le sortir de la caverne.
Oui.
Du moins, c'est le narrateur qui le dit.
Absolument.
Vous le dites à travers ce narrateur.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Alors, on ne va pas tout raconter, mais on va parler des femmes quand même, qui ont un rôle important.
Bien.
Je dois dire que j'ai un faible pour Elsie, hein, pour tout vous dire. Bon, effectivement, Hermine... On peut en parler déjà, elle est moins présente, forcément.
Fatalement.
On devise son rôle important, mais lequel, un grand amour de Stervin, un amour intense entre elles, mais alors c'est là où on se demande si le problème aussi n'est pas là, il y a quelque chose qui n'a pas marché, et... dans lequel peut-être Stervin se sent coupable. Moi, je le vois comme ça.
Tout à fait. Bon. Oui, c'est central.
C'est central. Oui, je crois que c'est central.
Absolument.
Et c'est très curieux, finalement, parce que dans le fond, il veut, je me dis, c'est un sacré personnage, parce qu'il veut être en tête, il veut mener les foules, en général, finalement, mais quand il y a quelque chose qui le lie à quelqu'un, où il est d'égal à égal, ça ne marche plus.
Absolument. Oui, c'est très bien vu. Et ça me plaît beaucoup que vous le disiez comme ça. Il y a d'ailleurs un passage dans le livre où j'évoque dans un dialogue qui est censé être un extrait d'un des livres de Warrock, où je parle de cette malédiction, justement, de celui qui vient chaque fois revenir piétiner les plates-bandes de l'autre. Voilà. Et c'est quelque chose qui est absolument intolérable pour Stervin.
Oui.
Voilà. Et donc, vous avez très bien vu ça. Absolument, oui. Tout à fait.
Alors bon, il y a Elsie qui est aussi un témoin. Elle faisait partie de cette bande. C'est une femme vivante, très vivante, libre, courageuse. Et alors, ce qui m'a amusée, c'est quand elle dit, elle houspille ces hommes qui ne parlent pas. C'est un fait que c'est souvent très masculin, si je peux me permettre de le dire. Très mutique, bon, une réserve, peut-être ne pas montrer ses faiblesses aussi.
Oui.
Et elle va de l'avant, elle dit les choses, elle ose dire les vérités.
Absolument. Absolument. Vous évoquiez votre faible pour Elsie, c'est également mon cas. elle a un rôle absolument fondamental parce que c'est par elle que les choses se dénouent.
Se décantent.
Absolument. Ouais. Elle est là pour secouer justement cette espèce de torpeur dans laquelle, enfin, qu'elle perçoit en arrivant elle-même dans le manoir de Beggarquat. Et vous rappeliez le mutisme de ces hommes qu'elle trouve là et
oui,
qui se disent certainement des choses passionnantes, mais qui évitent soigneusement
de parler d'eux,
de parler de voilà et de ce qui peut faire nœud.
Oui.
Voilà. Et elle est là pour faire sauter le couvercle de la marmite. Hein. C'est exactement ce qui se passe.
Voilà. Et c'est vrai que c'est une femme libre. Une femme libre.
Oui.
On parlera pas plus d'elle parce que elle est présente. Elle a un rôle aussi à jouer, comme vous le dites.
Tout à fait.
Mais revenons, alors c'est vrai que dès le départ, j'avais relevé un passage dans votre ouvrage où on parle, où on parle de l'écriture. C'est très exagéré, coupa-t-il évidemment, à une époque où les romans qu'on encense ressemblent à des légumes calibrés, je comprends très bien qu'ils fassent figure d'épouvantail. Mais si tu mets de côté ces fragments, très durs, trop purs peut-être pour un début, les
sœurs. dans la littérature. Et ce que j'aime, c'est justement les livres qui vont avoir une capacité à dire autre chose que ce qu'ils formulent,
ouais.
À nous laisser un espace d'interprétation, à susciter la rêverie. Je fais partie de ceux qui aiment relire les phrases plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que leur sens n'est jamais complètement définitif. Et c'est ça, je trouve, qui procure un plaisir extraordinaire. J'ajoute que dans le plaisir que j'ai en tant que lecteur avec ce type de littérature, c'est vraiment quelque chose qui permet de marquer une frontière entre, par exemple, entre une littérature et une autre. Et entre le monde des séries télévisées, par exemple, qui est vraiment dominant aujourd'hui, et quelque chose qui va permettre de s'adresser à des régions de l'âme complètement différentes. J'évoque souvent une anecdote, c'est qu'au moment où le livre est paru, je rentre dans une librairie parisienne et je cherchais un ouvrage de Ezra Pound, bref, et je tombe sur un ouvrage d'un autre auteur très à la mode, je ne citerai pas son nom, et sur la bande entourant le livre, un critique extrêmement connu se répand quelques éloges sur le livre en question et dit « se lit comme une série ».
Se dévore
comme une série.
Ah, oui.
Et je me suis dit « mais si l'avenir du roman est d'être dévoré alors, par ou comme une série »,
c'est fichu.
Qu'est-ce qui va lui rester ? Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est justement la littérature qui permet des plaisirs qui sont d'une nature
absolument
complètement différente.
Oui.
Voilà. D'où l'importance du mot que vous soulignez.
Et vous dites,
tout à l'heure.
Mais si une note, un mot, un vers parviennent à disperser d'un coup de foudre des ombres qu'on ne savait pas ou plus pouvoir chasser, où est le poids, où est le fardeau ? Quand une phrase dénoue, rachète, soulage, où est le mal ? D'ailleurs, sans ces effets de souffle, on ne parlerait pas de génie, on n'aurait ni Voltaire, ni Proust, ni Warhol, probablement.
Voilà
ce que vous venez de dire.
Exactement.
Voilà, donc ça c'est très intéressant aussi dans la lecture. Vous parlez d'une grange d'ailleurs peuplée de livres, un savoir clos comme frappé d'aridité. Ça c'est étonnant aussi. En fait, il y a également, et j'aurais dû le dire auparavant, c'est vrai que vous parlez très bien de cette nature qu'on imagine bien, parce que bon, je ne connais pas bien la Bretagne, mais j'ai quand même lu, et puis j'ai vu des documentaires. Mais c'est vrai que vous montrez ce foisonnement dans la lande, je pense, mais des légendes également. Et ça, j'ai l'impression que ça passe à travers vos textes.
Oui. Alors, je voulais éviter de faire directement appel au fond légendaire.
Oui,
voilà,
il n'y a pas de référence.
De tomber dans des banalités ou dans du folklorique. Mais à jouer avec ces codes de la légende, vous voyez ce que je veux dire,
oui,
voilà.
Oui, oui.
C'est ça qui m'intéresse à chaque fois. Si, par exemple, le surnaturel ou l'épouvante ou le roman gothique ne m'intéresse pas en tant que tel, mais en détournant les codes pour en faire quelque chose
absolument
qui évoque un souvenir lointain ou une impression d'eux, où voilà, on va avoir le sentiment de se retrouver peut-être chez Anne Radcliffe ou chez Lovecraft, sauf que c'est pour en faire complètement autre chose, voilà.
Et
laisser une marge d'incertitude.
Oui. Il y a des sons énigmatiques,
oui.
Il y a des portes qui claquent, il y a des cavernes dont on ne connaît pas la fin, il y a des pièges, des bruits de pas qui semblent suivre la personne, des choses qui inquiètent. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et finalement, c'est l'imagination.
Bien sûr,
ça.
Ben oui, voilà.
Voilà, je vous ai dit, je crois, hors antenne, que j'avais eu le sentiment que je pouvais relire ce livre 10 fois, et 10 fois, je découvrirais une autre histoire, une autre version. Alors, quelle sera la bonne ? Je ne sais pas.
Non, mais ce que vous me dites, une fois de plus, me touche beaucoup, parce que je suis heureux qu'il y ait cette marge d'interprétation, encore une fois. Je considère que c'est précisément là que peut apporter quelque chose de fondamental à la littérature, dans cet espace de liberté que le texte lui-même va créer. Cet interstice, cet écart que la langue, que l'écriture va pouvoir ouvrir pour justement que la rêverie puisse s'exercer. Alors, je ne résiste pas à vous citer Debussy, qui disait à un moment « Mon poète, celui des choses dites à demi, celui qui me laisse greffer mon rêve sur le sien. Alors ça, c'est une idée qui m'a obsédé, vous voyez, dans la rédaction du roman. Voilà, la possibilité que le lecteur puisse greffer son rêve sur celui que j'avais mis en mots à travers ce texte.
Eh bien, voilà, on va terminer sur cette belle phrase. Merci justement de nous laisser à nos rêves de Bretagne. Même si on ne connaît pas, on découvre la Bretagne à travers votre livre. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de cet ouvrage intitulé « Ce qu'a tu le vent d'Ouest » de Vincent Canchon, édité chez Gallimard, la collection L'Arpenteur, qui est un peu particulière.
Oui, tout à fait. Mais j'étais vraiment très heureux. Vous l'imaginez, enfin, quand j'ai reçu les premiers appels téléphoniques, c'était merveilleux. J'en dis juste un mot parce que ce qui était remarquable, et ça on le dit pas souvent, c'est que Gallimard est une maison prestigieuse, donc évidemment on est très content, voilà. Mais non, le contentement précisément, voilà, c'est la qualité de lecture des lecteurs du comité, notamment Andrea Guiducci qui était le premier lecteur et Ludovic Escande qui est le directeur de la collection. Et quand j'ai commencé à discuter avec tous les... la première fois, j'avais eu le sentiment d'avoir été entendu, compris, d'accord, avec un niveau de précision dans la lecture qui était
voilà,
remarquable. Il faut le souligner.
Il faut souligner le travail des éditeurs.
Absolument. Ben voilà, j'en profite.
Un grand merci, Vincent Canchon.
Merci beaucoup, Monique. Merci beaucoup.